L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Mardi dernier, en amont du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, était organisée à Arras une conférence-débat. Le thème en était « Le numérique menace les futures générations et la planète ». L'invité, c'était Fabien Lebrun, auteur du livre « On achève bien les enfants, écrans et barbarie numérique » paru en 2020. On le retrouve à notre micro. Il commence par nous dire ce qui l'a amené à travailler sur ces questions.
Ça fait plusieurs années que je me consacre en tant que sociologue à des recherches sur le numérique. Ça s'était traduit par un doctorat en 2016 où, pour le faire vite, j'analysais les transformations plutôt globales, sociétales, générées par le numérique. Et puis, à cette même date, 2016, 17, 18, il y a eu plusieurs pétitions, tribunes, écrits sur la question des enfants et des écrans. Et donc j'ai voulu, ça faisait déjà un petit bout de temps que ça me taraudait, parce que moi-même j'avais une expérience pédagogique assez conséquente, puisque j'ai 20 ans de direction, de centre de loisirs, de colonies de vacances, ce genre de choses. Donc moi-même j'ai pu être confronté aux enfants sur des temps assez longs, au quotidien. Et c'est vrai qu'avec l'apparition du smartphone en 2007 et la tablette en 2010, déjà j'ai vu qu'il y avait un vrai changement dans les relations humaines, dans les rapports sociaux, et que finalement c'est ce numérique qui s'installait de plus en plus posait des problématiques éducatives. Donc du coup, pour revenir sur 2016, 17, 18, il y a toutes ces tribunes et ces bouquins qui apparaissent jusqu'à 2019, dont celui qui a fait un petit peu connaître le sujet, c'est Michel Desmurger avec La fabrique du crétin digital, qui a un succès de librairie amplement mérité. Et en même temps, le fait de lire toute cette littérature sur le sujet, je trouvais qu'il y avait peut-être un manque ou une faille que je me suis proposé de combler, à savoir que toutes ces études, elles étaient focalisées sur, on va dire, la consommation des écrans, sur l'usage et vraiment l'utilisation des appareils connectés. Et on oublie un petit peu ce qui se passe en amont et en aval, à savoir, donc je voulais proposer une réflexion sur tout le cycle, on va dire, de la chaîne de valeur des appareils électroniques. Donc pour montrer qu'il y avait des dégâts manifestes du point de vue de la consommation, peut-être plus avec un regard sur les pays dits riches, mais qu'en même temps, ces écrans, ils ne tombent pas du ciel. Faut les produire, faut les fabriquer, faut les construire. Et donc là, ça convoque différents secteurs économiques industriels, où à chaque fois, malheureusement, l'enfance est convoquée, et bien souvent dans des conditions assez terribles, où le droit des enfants, le droit de l'environnement est bafoué. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur enfants et écrans, et plus généralement sur numérique et les impacts que ça a sur la société en général.
Dans ce livre, vous évoquez notamment les dangers de l'utilisation des écrans par les enfants en termes de concentration, d'articulation de la pensée, de fabrication des rapports sociaux, en termes de mise en contact avec des contenus violents, haineux, voire pornographiques. Mmh. Vous parlez, au-delà de ça, d'un bouleversement anthropologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Effectivement, ce qu'on a pu observer ces 20 dernières années, et malheureusement ce qui se vérifie, je pense, sur les 5 ou 10 prochaines, notamment avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est sur des rapports humains, mais aussi un rapport, je dirais, à l'espace, un rapport au temps, un rapport aux autres ou à soi-même, qui est de plus en plus médié ou interféré par des écrans, par des nouvelles technologies. Et donc, ça transforme littéralement ce qu'on peut appeler la condition de l'homme moderne, donc la condition anthropologique. Et sur un versant qui, moi, me paraît largement critiquable et contestable, c'est notamment le fait que tous ces appareils, et encore plus, là, ça va être exacerbé avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est face à une forme, je dirais, de dépossession, en fait on délègue de plus en plus de fonctions, de compétences aux machines, aux appareils, et ce qui fait qu'on se retrouve finalement à de moins en moins développer des formes d'intelligence psychique, mentale, intellectuelle, mais aussi manuelle, des savoir-faire, des savoir-être, et que finalement tout de plus en plus est pris en charge par ces technologies. Et ça pose quand même la question de la place de l'homme dans cette société. Et malheureusement, je trouve qu'on est sur un processus où on l'évince de plus en plus et où on tend de plus en plus vers des formes d'obsolescence ou de superfluité. Et ça se pose pour le travail, mais ça se pose, je dirais, juste dans notre existence, sur la condition. Puisque si on apprend, si on fait à notre place, si on écrit l'écriture manuscrite, si on parle avec les capsules audio, je ne sais quoi, qu'est-ce qui nous reste en fait? Quelle est notre place dans ce monde et dans cette société?
Parmi les gens qui s'interrogent beaucoup sur le numérique, sur la place que ça prend dans l'enfance et chez les jeunes, il y a pas mal de profs aussi. Là, par exemple, avec mon fils, il y a l'exemple de cette prof de français qui dit qu'elle voit la différence entre les enfants qui sont souvent sur des écrans et d'autres qui sont moins souvent sur des écrans. Mais ça pose aussi la question de la place du numérique à l'école, avec cette injonction un peu paradoxale de dire bon voilà, faut moins consommer d'écran, mais finalement l'école passe aussi beaucoup par l'écran, par Pronote, etc. Comment vous voyez ça un peu le rôle de l'école dans tout ça?
Effectivement, on est complètement sur des injonctions paradoxales et contradictoires, c'est peu de le dire, puisque, et maintenant, je pense que c'est un fait établi, enfin normalement, mis à part l'industrie du numérique avec ses lobbies, qui essaie un petit peu de d'immiscer du doute, mais sur l'aspect des études, du développement, de tous les piliers du développement de l'enfant, le numérique pose un problème, tant du point de vue de l'apprentissage, de l'éducation, de l'intellect, mais aussi que des choses sur le corps, sur le sommeil, sur le développement physiologique, la maturation cérébrale, etc. Donc, a priori, on a quand même compris qu'il faudrait diminuer, voire interdire sur un certain, c'est en débat d'ailleurs, sur certains âges, peut-être en fonction aussi de certains espaces ou de certains moments de la journée ou de certains aussi métiers quand on est plus grand. En tout cas, donc voilà, il y a ce constat. Et en même temps, l'école n'est aussi qu'un reflet de la société, mais on est sur une forme de numérisation tous azimuts, de rouleau compresseur technologique un petit peu dans tous les sens. Et effectivement, l'école n'a fait depuis 10-15 ans que de développer des outils numériques. Vous parlez de Pronote, il y a aussi ce qu'on appelle les ENT, les environnements numériques du travail. Il y a maintenant dans certaines régions ou départements où même les manuels scolaires ne sont plus en papier, ils sont passés directement, on les a en les téléchargeant sur le PC, les ordinateurs, ou les tablettes qui sont eux-mêmes distribuées, soit par les départements, les villes ou les régions. Donc voilà, on est sur une numérisation à marche forcée, alors que dans le même temps, on a des rapports qui émanent parfois de l'institution elle-même, de l'éducation nationale, du ministère, sans compter évidemment tous les experts, tous les scientifiques, les neuroscientifiques et autres, les psys, les médecins. Donc pour les parents, c'est un enfer. Je pense qu'aujourd'hui, déjà que la parentalité, on parlait tout à l'heure de la condition anthropologique, la condition de parent elle-même a évolué, s'est même transformée avec cette thématique des écrans. Mais alors en plus, gérer l'éducation qui est de plus en plus pris en charge aussi par ces fameux écrans, en tout cas par des appareils connectés numériques, c'est compliqué. Donc voilà, on est sur un vrai problème sociétal où d'un côté les parents font ce qu'ils peuvent pour limiter, voire interdire tous ces contenus et tous ces temps d'écran. Et dans le même temps, à l'école, on les met de plus en plus devant des écrans et à la maison, on leur dit qu'il faut continuer à faire des devoirs ou d'avoir accès à des informations ou à communiquer avec leur professeur via un écran. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est sur de l'injonction paradoxale. Il y a des choses quand même qui montrent que peut-être ça peut évoluer, et là, il faut aller vers d'autres pays. Peut-être êtes-vous au courant, mais par exemple, en Suède, le ministère de l'Éducation nationale, suite au constat catastrophique du numérique depuis 10 ou 15 ans, et d'ailleurs, on dit souvent que les pays scandinaves sont en avance d'un point de vue éducatif et pédagogique, en Suède, ils ont remis complètement ça en question, et ils reviennent. Alors certains diraient que c'est un retour en arrière, moi je pense que c'est plutôt un pas de côté et du bon sens. Ils reviennent à des livres papier et des manuels scolaires. Donc là on a vraiment la puissance publique qui refinance des moyens techniques, en l'occurrence des livres, pour repartir sur des formes d'apprentissage plus efficientes, quoi.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, le danger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque, c'est fou de se dire. Tout ça dans un objet.
Suite de notre entretien avec Fabien Lebrun, auteur du livre « On achève bien les enfants, écran et barbarie numérique » rencontré à Arras mardi dernier.
Comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous? Moi j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup.
Aujourd'hui on est le mardi 30 avril en première page de La Voix du Nord. Enfants et écrans, un rapport alarmant. La Voix du Nord a consulté un rapport d'experts commandé par le président de la République. Donc là, il y a une prise de conscience peut-être, en tout cas les signes d'une prise de conscience politique. Vous avez suivi, vous, les conditions de cette commission de consultation ?
Alors, un petit peu à la marge. Alors, c'est vrai que c'est bon, moi j'ai toujours un petit doute, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, et ça recoupe un peu les injonctions paradoxales, ou en tout cas le paradoxe qu'on voit vis-à-vis du numérique, puisque dans le même temps, de plus en plus, y compris de personnalités politiques, publiques, prennent la parole sur ce sujet, y compris pour le critiquer. Avant Emmanuel Macron, on avait eu Gabriel Attal qui, en tant que ministre, avait dit, hein, je le cite, que les écrans représentent une catastrophe sanitaire éducative, ce qui ne l'empêchait pas, une semaine après, de dire que pour régler ces problèmes, il va falloir développer l'intelligence artificielle, notamment pour les secondes, donc à la rentrée prochaine en septembre 2024, je crois, pour les matières de français et de mathématiques. Donc suite à ça, début janvier, effectivement, le président Emmanuel Macron a décidé de créer cette commission d'experts sur l'usage des écrans par nos enfants. Alors là, j'ai pas eu accès aux résultats si c'est tombé aujourd'hui. Bon, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que il faut effectivement suivre et voir s'il y a des préconisations qui nous semblent intéressantes et si elles peuvent être appliquées. Après, voilà, je pense qu'il faut toujours garder un œil sur le fait que aussi ce type de commission, alors là, je dis pas que c'est le cas, hein, j'ai pas la connaissance, mais parfois sont aussi composés d'experts qui, parmi ces experts, eux-mêmes, des fois, ont des conflits d'intérêts ou sont proches de ce qu'on appelle les lobbies du numérique. Donc, lisons et voyons, en tout cas, si la mesure, si le problème a été pris à sa juste mesure.
Vous parliez d'autres pays. Il me semble que c'est en Espagne où là, il y a des collectifs de citoyens, de parents, il me semble, hein, qui se sont organisés pour réfléchir et agir sur ces questions. Un mot aussi sur ce pouvoir des citoyens et comment ça se passe en France ?
Bien sûr. Alors ça, c'est très intéressant. On peut même dire que c'est à l'échelle européenne, puisque vous avez. Alors, on retrouve un peu le même type d'action, si je puis dire, ou de réaction, à savoir que ce sont souvent des collectifs de parents, voire associés à des enseignants, qui font en sorte que dans leur ville, dans leur municipalité, leurs jeunes, leurs enfants ou leurs élèves n'aient pas accès, notamment au smartphone, à partir d'une certaine limite d'âge. Je crois qu'en Espagne, mais souvent il y a 15 ans, ça fait un peu l'unanimité, pas, en tout cas c'est souvent pensé comme ça, c'est-à-dire fin du collège, quoi, avant l'entrée au lycée. Donc pas de se mettre d'accord pour qu'il n'y ait pas de smartphone, pour que ça ne génère pas des formes de rivalité ou de pression sociale, ou qu'un jeune dise bah, « moi j'ai un portable » ou « moi j'en ai pas et les autres en ont ». Donc voilà, les parents se sont réunis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce type d'injonction sociale. C'est vrai aussi... En Irlande, il y a une petite ville qui s'appelle Greystone, ce qui est au site de Dublin. Et là, on a vraiment eu pareil. Donc là, c'est jusqu'au collège. Les parents et les enseignants ont réussi à faire en sorte d'interdire le smartphone. Et cette initiative, d'ailleurs, sera peut-être prise par le ministre de l'Éducation nationale en Irlande. Et puis en France, vous avez aussi plusieurs collectifs comme ça. Alors, il y a des collectifs, mais je pense aussi à une initiative municipale d'un maire en Seine et Marne, d'un petit village qui s'appelle Seine-Port. Et donc il y a deux mois, là c'est en février je crois, le maire a fait passer a proposé un référendum aux citoyens pour interdire carrément les écrans dans l'espace public, à savoir dans les rues, les commerces et je crois les rassemblements collectifs. Et ce référendum a été approuvé par les citoyens d'une ville de 2000 habitants. Après, je crois que c'est compliqué à appliquer par rapport un peu aux prérogatives constitutionnelles où ça ne fonctionne pas avec l'État. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de poser le débat dans l'espace public et de montrer aussi que ça concerne les jeunes, les enfants, mais les citoyens aussi font en sorte parfois quand même de limiter ce tout numérique, quoi.
Vous
vos messages.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi.
Fabien Lebrun, votre prochain livre sortira en octobre 2024. Ça s'appellera Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté. Si je ne dis pas de bêtises,
c'est ça.
À l'échapper. C'est un ouvrage qui parle justement de toutes les conséquences de cette recherche des métaux, notamment en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre et puis peut-être du travail d'enquête, comment ça s'est passé pour vous ?
Bien sûr, alors là, c'est un travail que j'avais un peu initié dans le premier, où il y avait un chapitre sur, ça concernait les enfants, donc notamment les conditions épouvantables des enfants dans les mines congolaises, donc du Congo, la République démocratique du Congo, ou qu'on appelle aussi Congo-Kinshasa, un pays qui fait 5 fois la France, donc il faut s'imaginer, c'est un pays continent, hein, et qui est très très fourni, c'est peu de le dire, en minerais, en métaux, notamment les métaux qui servent l'industrie numérique, mais plus généralement le secteur high-tech, donc aussi pour la transition énergétique, l'aéronautique, l'armement, voilà, ce genre de secteur, mais notamment le numérique. Et donc ce que j'ai voulu proposer donc, dans ce bouquin, qui est effectivement une enquête, un livre-enquête qui sortira en septembre prochain, c'est de revenir un petit peu aux racines, clairement aux origines de notre monde numérique, et d'essayer de aussi, parce que souvent l'histoire, on l'entend à travers l'idéologie de la Silicon Valley, où on l'écrit souvent à travers les ingénieurs ou puis des pays riches, sauf qu'on a quand même tendance à un petit peu oublier la matérialité de tous ces objets et ce que représente le numérique, avec tous les impacts derrière en termes énergétiques, climatiques, écologiques, qu'on oublie et qu'on met bien souvent de côté. Et donc si on remonte, notamment si on arrive dans les années 90 où on a l'avènement de la téléphonie mobile et du réseau Internet, eh bien vous avez au même moment une guerre meurtrière, un des conflits les plus sanglants depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, ça fait l'unanimité chez tous les analystes observateurs. Et donc pourquoi cette guerre ? Eh bien pour que déjà à l'époque, Microsoft et les autres puissent se fournir en certains métaux, alors c'est des termes un peu techniques, mais peut-être que le grand public le connaît. Il y a notamment le coltan pour fabriquer les condensateurs. Il y a le tungstène pour fabriquer les vibreurs, les haut-parleurs. Vous avez aussi l'étain pour les circuits des soudures électroniques. Aujourd'hui, on parle un peu plus du cobalt pour les batteries, également pour les smartphones et les ordinateurs, mais également pour les voitures électriques. Donc voilà, donc tout ça génère sur place une économie militarisée, une criminalité institutionnalisée où tout le monde se sert, l'Europe, l'Asie, les pays africains eux-mêmes, par exemple l'Afrique du Sud. Vous avez aussi les multinationales d'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis, du Brésil. Bon voilà, donc tout le monde a besoin de la terre congolaise pour continuer à numériser, à connecter ce monde, avec des impacts sur place terrifiants, des violations diverses et variées des droits humains, des exactions, des massacres, du travail d'enfants, des viols, des violences sexuelles, et y compris le viol utilisé comme arme de guerre par différents groupes armés sur place. Voilà, donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui nous paraît loin, qui relève plus peut-être de la géopolitique des matières premières, des relations aussi diplomatiques entre les grandes nations, les puissances. Mais finalement, depuis 25 ans, moi, je pense que c'est une des tragédies les contemporaines les plus graves. On parle quand même de millions de morts. Les chiffres sont discutés, mais certains montent jusqu'à 5, 6, 7, 8 millions de morts. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes au Congo, notamment dans la région du Kivu, qui est frontalière à l'Ouganda, le Rwanda, et là où on a beaucoup de minerais. Donc c'est vrai que même d'un point de vue médiatique, on parle beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, ou d'Israël et du Hamas, mais on parle très peu du Congo. Et pourtant, c'est aussi la terre congolaise qui permet la marche du monde aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, en termes d'enquête, j'ai pu me rendre sur place plusieurs fois. Je ne pouvais pas accéder aux mines parce que c'était trop dangereux, sachant que je n'ai pas non plus de carte de presse. Moi, je reste chercheur. Mais par contre, j'ai pu m'entretenir avec des journalistes sur place, des chercheurs, des humanitaires, des gens qui eux-mêmes prennent des risques pour aller dans les mines, parfois en changeant d'identité, et eux qui vraiment ont pu accéder à ce travail d'enfant notamment, à cette terreur sexuelle. Et moi, j'ai pu accéder à ces rapports aussi en étant sur place. Et je m'en suis nourri pour l'enquête et le livre. Moi, je réinsiste toujours pour politiser le numérique. De mon point de vue, c'est un des enjeux, si ce n'est l'enjeu du XXIe siècle, notamment quand on le regarde aussi par ce prisme des ressources naturelles, de l'énergie, de l'eau aussi. Il faut savoir que le numérique, ça génère des nouvelles guerres de l'eau. Si j'ai le temps, petit exemple aujourd'hui en Uruguay, vous avez Google qui veut installer un projet de data center, mais vous avez les populations sur place, les autochtones, les indigènes, qui se battent pour refuser cette construction de data center, puisque les data centers, la plupart du temps, sont installés près des cours d'eau, des rivières, des lacs, puisque notamment pour leur système de climatisation, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, l'idée, je pense, c'est ce qu'il faut, c'est d'écrire de plus en plus les aspects matériels du numérique et de voir que c'est une impasse et qu'il faudra sortir de cette impasse numérique et connectée. Sinon, on n'a pas fini de comptabiliser les ravages écologiques et humains.
Fabien Lebrun, auteur du livre « On achève bien les enfants, écrans et barbarie numérique », paru aux éditions Bordelot en 2020. Il était invité mardi dernier à une conférence débat en amont du Salon du livre d'expression populaire et critique sociale. C'était à Arras, à l'hôtel de Guines, en partenariat avec l'asso ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisy.
Sur ton portable, comme une moule à son rocher. Je te proposerais bien une balade avec ton père dans les sous-bois. Tu laisserais tomber ton portable, mais pas ton père, que c'est moi.
Alors si cette thématique vous intéresse, sachez que Radio PFM proposera probablement fin mai une initiative qui s'appelle une journée sans ordi, un moment de réflexion sur justement les enjeux du numérique. N'hésitez pas à contacter PFM pour participer ou en savoir plus.
Le pire s'écrit au passé et qu'on ne revient pas en arrière. Et puis d'abord il faut qu'on parle. Tu peux survivre sans ton portable. Peut-être un peu plus que les autres. Si on sortait les aquarelles, toutes tes Barbie, les Lego. Je te promets, je ferai pas de vaisseau qui viendrait détruire ton château. Tu sais, ma puce, y'a rien qui presse. Je vais bien me déguiser en princesse. Je pourrais redevenir le père à qui tu lâchais pas les masques. Quand je pouvais encore te faire croire que j'étais le chef de l'espace. Je pensais pas que viendrait le jour où faire des perles pourrait me manquer, où rien que l'idée de changer une couche me donnerait envie de chialer. Et puis d'abord il faut qu'on parle. Tu peux survivre sans ton portable. Surtout pas t'inquiéter, je me suiciderai qu'une ou deux fois. J'espère au moins que t'oublieras pas les deux trois trucs que je t'ai appris. Qu'on n'écrase pas plus petit que soi, qu'une fleur c'est plus beau qu'un fusil. Et si un jour
tu veux qu'on parle? Je sais me servir de mon portable.